franceinter.fr.
La pollution des mers par le plastique est donc à la une de la science avec le cas du mergule nain, oiseau marin qui est le plus abondant en Atlantique Nord et qui prend les microplastiques pour du zooplancton. Bonjour Françoise Amélineau.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes doctorante au Centre d'écologie fondamentale et évolutive de Montpellier. Pourquoi d'abord est-ce que vous êtes particulièrement intéressée à cette espèce d'oiseau qui élève donc ses petits dans l'Arctique ?
Alors en fait, on l'étudie dans le cadre d'un programme financé par l'Institut Polaire. Et parce que c'est un oiseau qui vit à proximité de la glace de mer et dans un environnement qui est très sujet au changement climatique. Et dans ce cadre-là, on a pu voir qu'il y avait des microplastiques dans la nourriture qu'ils ramenaient à leurs petits, d'où cette étude.
Comment est-ce que vous faites précisément pour connaître le contenu de cette nourriture ramenée aux petits ?
Alors en fait, ils ramènent leur nourriture dans une poche située sous la langue. Et on les attrape à la colonie au moment où ils rentrent pour donner la nourriture à leurs poussins. Et en ouvrant leur bec, on peut facilement récupérer les proies qui s'y trouvent, du zooplancton. Et ensuite, au laboratoire, on l'analyse sous une loupe binoculaire pour identifier les espèces.
À quoi il ressemble cet oiseau, Françoise Amélineau, exactement ?
Alors, il est de la famille des alcidés comme les macareux ou les guillemots. Il fait 150 grammes, donc il est vraiment petit, d'où son nom, le mergule nain. Il est noir et blanc et adapté à la plongée.
Oui, alors c'est ça, c'est un excellent plongeur apparemment. Hein.
Oui, il se nourrit dans la colonne d'eau et il peut aller jusqu'à 50 mètres de profondeur.
50 mètres.
Ce qui est original dans vos travaux, c'est que pour vous, la présence de ces plastiques dans les repas n'est pas là par hasard. En gros, ils chassent du plastique.
Alors, ce qu'on a trouvé dans cette étude, c'est que on a pu à la fois prélever la nourriture que les mergules ramènent à leurs poussins et le plancton en mer. Et on s'est rendu compte que la proportion de plastique clair était plus importante dans la nourriture des mergules qu'en mer. C'est-à-dire qu'ils sélectionnent les microplastiques de couleur claire. Et ça voudrait dire donc qu'il y a un comportement actif de capture de ces plastiques. Et probablement, ils les confondent avec leurs proies.
Elles ressemblent vraiment, leurs proies, à des tout petits morceaux de plastique ? Enfin, en tout cas, quand vous regardez ça au microscope ?
Alors, ça ressemble pas directement, mais c'est vrai que, par exemple, le reflet de la lumière sur du zooplancton, ça peut avoir le même aspect qu'un petit filament de plastique où la lumière se reflète. Ou alors, ça peut également se confondre avec une antenne de copépode ou des appendices.
Françoise Amélineau, excusez-moi parce que je reviens à cette histoire de plongée moi, qui me fascine totalement. Vous nous avez dit 50 mètres de profondeur pour ce tout petit oiseau. Mais ça veut dire qu'il est capable de rester combien de temps dans l'eau de l'Arctique ?
Alors, les plongées ne durent pas très longtemps, c'est 1 à 2 minutes environ. Donc, il est capable, pendant cette durée, de descendre. Alors, 50 mètres, c'est vraiment le record qu'on a pu enregistrer. C'est plutôt couramment dans les 20 à 30 mètres.
Ouais.
Et donc, en 1 à 2 minutes, il a le temps de descendre, de se nourrir et de remonter.
C'est pas mal, quand même, l'apnée d'un oiseau à 2 minutes dans les eaux froides de l'Arctique.
Vous êtes allé vous-même en Arctique pour faire ces collectes ?
Oui, j'ai fait 3 saisons de terrain au Groenland.
D'accord. Comment vous avez démarré ces études d'ailleurs, Françoise Amélineau ? Vous étiez particulièrement intéressée par la problématique du plastique ou ça a été un peu le hasard ?
Alors en fait, c'est arrivé au cours de ma thèse. À la base, mon sujet de thèse, c'est de regarder les impacts du changement climatique sur cet oiseau.
Mmh.
Et en étudiant leur nourriture, je me suis aperçue qu'il y avait des petits morceaux de plastique dans le plancton que j'étudiais. Enfin, entre les individus de plancton. Et à partir de là, j'ai donc travaillé en collaboration avec Delphine Monnet de l'Université de Montpellier pour quantifier les microplastiques à la fois dans la nourriture des mergules et dans l'environnement.
Donc c'est le mergule qui vous a fait bifurquer hein, sur une autre voie de recherche.
Voilà.
Est-ce que vous êtes capable de tracer l'histoire de ces plastiques, de savoir d'où ils viennent, à quoi ils ressemblaient quand ils étaient encore sous forme macroscopique ?
Alors, la plupart des microplastiques qu'on a trouvés dans les mergules et dans l'environnement de l'Arctique, c'était des filaments, donc plutôt des formes très allongées. Et on a étudié la nature de ces plastiques, donc quel était le polymère dont ils étaient composés. Et donc ça nous permet de savoir que c'était principalement des emballages plastiques, des films plastiques et des fibres textiles qui composaient ces microplastiques. Et donc ça provient de la dégradation de plastiques de plus grosse taille qui ont été déversés dans la mer via les rivières et amenés jusqu'en Arctique par les courants marins.
Comment ça se fait qu'il y en ait autant en Arctique du plastique, en tout cas jusque dans les eaux ? Vous parlez de 3 ou 4 morceaux par gramme de nourriture, c'est ça ?
Oui, c'est à peu près ça qu'on a trouvé. Donc il y a une étude récente qui a montré que la glace de mer, la banquise, pouvait servir de puits au plastique. avec des microplastiques qui sont piégés quand la glace se forme et qui sont relargués au moment où la glace, au moment de la débâcle. Mmh. Et l'endroit où on a étudié les mergules, c'est à l'est du Groenland, et c'est par là que se vide la glace de l'Arctique via les courants marins. Et donc, ça serait possible qu'il y ait une certaine concentration des microplastiques via la glace à cet endroit-là.
Donc, vous êtes allé à plusieurs reprises sur place pour étudier ce phénomène ?
Alors, cette étude a été faite sur 2 ans. On va tous les ans étudier la colonie de mergules, mais les prélèvements en mer ont pu être faits seulement en 2005 et en 2014. Mmh. Et on a effectivement vu des changements entre ces 2 années, avec une augmentation des microplastiques en 2014 par rapport à 2005. Donc c'est soit dû à l'augmentation globale des microplastiques dans l'océan, soit dû à la présence de glace, parce qu'en fait, en 2014, il n'y avait pas du tout de banquise dans l'endroit où se nourrissaient les mergules, alors qu'il y en avait en 2005. Mmh. Donc si la glace piège les microplastiques, ils ont pu être relargués en 2014 et donc plus présents dans l'environnement et plus consommés par les mergules en l'absence de glace.
Allez, dernière question,
oui,
Axel.
On parle de l'oiseau depuis tout à l'heure, mais ce zooplancton lui-même qui vit en présence de plastique, est-ce qu'il est impacté par la présence du plastique ?
Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu regarder à l'échelle de notre étude, mais il y a d'autres études qui montrent que oui, à l'échelle du zooplancton, il y a aussi une contamination possible par des microplastiques, donc de taille inférieure à ceux, bien sûr, consommés par les mergules. Et donc, il y a également une bioaccumulation qui peut se faire au cours de la chaîne alimentaire, parce que les mergules, par exemple, ils vont consommer du plastique également via leurs proies, qui auront consommé des morceaux plus petits.
Et ça pose un problème de toxicité pour cet oiseau aussi, le fait d'ingérer autant de plastique ?
Alors, à cette étape de notre recherche, on ne peut pas encore le mesurer, mais on sait que les microplastiques sont porteurs de polluants. Donc, cela peut effectivement avoir des impacts parce qu'ils vont être davantage soumis à des polluants.
Bon, ben donc on a besoin encore de vos recherches, hein, Françoise Amélino, pour en savoir plus sur ces phénomènes qui concernent maintenant l'ensemble de la planète. Hein. Merci beaucoup à l'occasion de cette publication donc, qui est parue cette semaine. Bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
À demain, Axel.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, d'autres oiseaux d'ailleurs que ceux de l'Arctique, fidèles à leurs compagnons d'hivernage. Une étude originale montre que les couples de mésanges qui s'installent pour se reproduire au printemps établissent leur nid à proximité de leurs amis. Ils organisent leurs limites de territoire de sorte que leurs voisins restent globalement les mêmes que pendant l'hiver. Les résultats donnent de nouvelles perspectives sur le comportement social des oiseaux et démontrent que les interactions peuvent être fines et façonner d'autres aspects que ceux liés à la reproduction. Un tétraplégique retrouve l'usage de ses bras grâce à des cellules souches. Il s'appelle Christopher Bozen. C'est un Américain de 21 ans. Il a subi une opération en avril dernier. On lui a injecté dans la moelle épinière 10 millions de cellules souches neuronales programmées pour devenir un type particulier de cellules nerveuses. 2 semaines après l'injection, les premiers signes d'amélioration de la fonction motrice sont apparus. 3 mois après, Christopher est capable de se nourrir seul, d'utiliser son téléphone portable, d'écrire son prénom, de conduire son fauteuil roulant électrique ou encore de prendre ses proches dans les bras. Il devra encore passer des tests régulièrement pour suivre bien sûr l'évolution de cette injection de cellules souches. Une météorite de 30 tonnes vient d'être découverte en Argentine. Il s'agirait de la 2e plus grande météorite au monde, après celle d'Oba de plus de 50 tonnes découverte il y a un siècle en Namibie. Le cratère se trouve à Campo del Cielo, donc en Argentine, frappé il y a environ 4000 ans par une pluie de météorites. Et puis une grenouille qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Alors qu'il se promenait dans le parc national de la montagne de la Table en Afrique du Sud, un homme a entendu un cri qui provenait d'un spécimen de grenouille endémique. Gonflé comme un ballon de baudruche, l'animal que vous allez entendre pousse tout au long de la vidéo des cris effrayants, jugés hilarants par les internautes. Voilà le cri de cette grenouille, plutôt effrayant, et il s'agirait, selon certains comportementalistes animaliers, d'une manifestation de son stress. À vous de juger.